Yona arrête le livre audio. Peur Mirberg, avec son singulier mélange de calme et d'intensité, qui lit Crime et châtiment de Fédor Dostoïevski. Il gare sa voiture près du Lao Wai, le restaurant asiatique végétarien dans lequel Lisa l'avait tanné pour qu'ils aillent. En jetant un regard par la fenêtre, il est frappé par la beauté simple, ascétique des meubles en bois, l'absence de fioritures, le manque d'objets décoratifs. Quand il sonne chez Simone, Eric est déjà arrivé. Il se salue et Yona explique rapidement ce qu'il compte faire.
« Nous allons faire une reconstitution de l'enlèvement, dans la mesure du possible. La seule d'entre nous qui était vraiment là pendant les faits, c'est vous, Simone. »
Elle hoche la tête, les dents serrées.
« Alors vous jouerez votre propre rôle. Moi, je serai le ravisseur, et vous, Eric, vous serez Benjamin. »«
D'accord, » dit Eric. Yona regarde l'heure.
« Simone, à quelle heure pensez-vous que l'effraction ait eu lieu ?»
Elle s'éclaircit la gorge.
« Je ne suis pas sûr, mais le journal n'était pas encore arrivé, donc c'était avant 5 heures, et je m'étais levé pour boire vers 2 heures. Ensuite, je suis resté réveillé un moment, donc je pense entre 2h30 et 5 heures. Bien, je mets ma montre sur 3h30,
ça nous donnera 1 heure moyenne, » dit Yona.
« Je vais ouvrir la porte d'entrée et me faufiler jusqu'au lit de Simone, simuler une injection, puis aller dans la chambre de Benjamin. » Où vous vous trouverez, Eric. Et là, je vous ferai une injection et vous traînerai hors de la chambre. Je vais vous traîner dans le vestibule et passer la porte d'entrée. Vous êtes plus lourd que votre fils, alors il va falloir compenser en supprimant 1 ou 2 minutes. Simone, essayez de vous mouvoir exactement de la même façon que pendant les faits. Allongez-vous au même endroit au même moment. Je veux savoir exactement ce que vous avez vu, ce que vous pouviez voir et ce que vous ne pouviez que deviner.
Simone hoche la tête, le visage pâle.
Merci, chuchote-t-elle. Merci de faire ça.
Yona la regarde avec ses yeux gris glaciers.
Nous allons retrouver Benjamin.
Elle s'essuie le front d'un mouvement rapide.
Je vais dans la chambre, dit-elle d'une voix rauque.
Puis elle voit Yona sortir de l'appartement, le trousseau de clés à la main. Elle est sous la couverture quand Yona entre. Il se dirige vers elle sans courir, mais d'un pas rapide et déterminé. Ça la chatouille quand il remonte sa manche et feint de la piquer. En croisant le regard de Yona, penché au-dessus d'elle, elle se souvient comment elle avait été réveillée par une piqûre nette dans le bras et avait vu quelqu'un se faufiler par la porte et passer dans le vestibule. Rien qu'en y pensant, le bras où elle a été piquée la picote inconfortablement. Quand le dos de Yona disparaît, elle se redresse dans le lit, frotte le pli de son bras et se lève lentement. Elle sort dans le vestibule, plisse les yeux en direction de la chambre de Benjamin et voit que Yona se penche au-dessus du lit. Et soudain les mots sortent tout seuls, comme s'ils faisaient écho à ses souvenirs.
« Qu'est-ce que vous faites? Je peux entrer ?»
Elle continue jusqu'au buffet d'un pas hésitant. Son corps se rappelle avoir perdu toute sa force et s'être effondré. Ses jambes cèdent. Elle se souvient de la paralysie et du noir complet dans lequel elle s'est peu à peu enfoncée, un noir traversé de rayons de lumière de plus en plus éphémères. Elle est à moitié assise contre le mur et voit Yona tirer Eric par les pieds. Les souvenirs rejouent l'inconcevable. Benjamin qui tente de s'accrocher à l'encadrement de la porte, sa tête qui rebondit sur le seuil et les mouvements de plus en plus faibles de ses mains tendues vers elle. Quand Eric est traîné devant elle et que leurs regards se croisent, c'est comme si la silhouette brumeuse et vaporeuse ressuscitait, une fraction de seconde, dans le vestibule. Elle voit le visage de Yona par en dessous. Dans un flash, elle voit le visage de Yona se métamorphoser en celui du ravisseur. Un visage caché dans l'ombre, une main jaune autour de la cheville de Benjamin. Simone entend Yona traîner Eric dans la cage d'escalier et refermer la porte derrière lui. Son cœur bat à tout rompre. Un sentiment de malaise plane dans l'appartement. Simone n'arrive pas à se défaire de l'impression d'avoir été de nouveau anesthésiée. Ses membres sont engourdis et lourds quand elle se relève. Yona traîne Eric sur le marbre éraflé du couloir et regarde tout autour de lui. Il vérifie les angles et cherche les endroits où des témoins auraient pu se trouver. Il tente d'évaluer jusqu'où il peut voir en bas et se dit que quelqu'un aurait très bien pu se trouver 5 marches plus bas, collé contre le pilier central de l'escalier, à l'observer. Il va jusqu'à l'ascenseur. Il avait bloqué la porte. En se penchant légèrement, il voit son visage sur la surface brillante de la porte, puis la paroi coulissante derrière. Yona traîne Eric dans l'ascenseur. Une fois à l'intérieur, il voit la porte à droite, la fente pour le courrier et la plaque en cuivre, et à gauche, un simple mur. Sur le palier, la lumière du plafonnier est assombrie par le montant de la porte. Yona pénètre plus avant dans l'ascenseur. Il dirige son regard vers le grand miroir, se penche et s'étire, mais ne voit rien. La fenêtre de l'escalier est constamment cachée. Il ne découvre rien de nouveau en regardant par-dessus son épaule. Mais subitement, il observe quelque chose d'inattendu. En se plaçant à un certain endroit, il peut, par l'intermédiaire du plus petit miroir d'angle, voir droit dans le Judas scintillant de l'appartement qui avait semblé complètement hors de portée. Il ferme la porte de l'ascenseur et constate que le miroir lui permet toujours de voir la porte. Si quelqu'un se trouvait de l'autre côté et regardait par le Judas, pense-t-il, la personne verrait à cet instant mon visage de façon claire et précise. Mais s'il bougeait la tête, ne serait-ce que de 5 cm, de n'importe quel côté, la vue disparaîtrait instantanément. En arrivant en bas, Eric se relève et Yona regarde sa montre.
8 minutes, dit-il.
Il retourne à l'appartement. Simone est dans le vestibule, elle vient de pleurer.
Il portait des gants de vaisselle, dit-elle. Des gants de vaisselle jaunes.
Tu es sûr ? Demande Eric.
Oui.
Alors ça ne sert à rien de chercher des empreintes, dit Yona.
Qu'est-ce qu'on fait ?
Demande-t-elle.
La police a déjà fait une enquête de voisinage, dit Eric d'une voix morne pendant que Simone enlève des saletés et de la poussière de son dos.
Yona sort un papier.
Oui, j'ai ici la liste des personnes qu'ils ont interrogées. Visiblement, ils se sont concentrés sur cet étage et les appartements en dessous. Il y en a 5 avec qui ils n'ont pas encore parlé et un qui...
Il étudie le papier et voit que l'appartement juste derrière l'ascenseur est biffé. C'est la porte qu'il a vue grâce aux 2 miroirs.
Un appartement a été carrément rayé, dit Yona. Celui qui se trouve derrière l'ascenseur.
Ils étaient en voyage, dit Simone.
Ils le sont encore. 6 semaines en Thaïlande. Yona les regarde d'un air grave.
Il est temps d'aller frapper à quelques portes, dit-il.
Le nom de Roselund était inscrit sur la porte depuis laquelle on pouvait voir l'intérieur de l'ascenseur grâce au miroir. C'était l'appartement que les policiers, chargés de l'enquête de voisinage, avaient négligé, puisqu'il était à la fois hors du champ de vision et inhabité. Yona se penche et regarde par la fente pour le courrier. Il ne voit aucune lettre ni publicité sur le seuil. Soudain, il entend un léger bruit provenir du cœur de l'appartement. À pas feutrés, un chat sort d'une pièce attenante et entre dans le vestibule. Il s'arrête net et dévisage Yona, qui maintient la fente ouverte.
Personne n'abandonne un chat pendant 6 semaines, dit-il pour lui-même.
Le chat écoute, son corps en alerte.
Tu n'as pas l'air affamé, lui dit Yona.
Le chat se laisse aller à un bâillement, saute sur une chaise dans le vestibule et s'enroule en boule. La première personne avec qui Yona veut parler est le mari d'Alice Franzen. Elle est la seule à être venue à la porte quand la police est passée. Le couple Franzen habite sur le même palier que Simone et Eric. Ils habitent l'appartement en face de l'ascenseur. Yona sonne et attend. L'espace d'un instant, il se rappelle qu'enfant, il allait de porte en porte avec le muguet du 1er mai dans une caissette, ou quelquefois avec la tirelire en carton d'une association caritative. Ce qu'il y avait d'étrange dans le fait de voir l'intérieur des autres, l'aversion dans le regard de ceux qui ouvraient leurs portes. Il sonne de nouveau. Une femme, la trentaine, ouvre. Elle le toise d'un air réservé et vigilant qui lui fait penser au chat dans l'appartement vide.
« Oui ? Je m'appelle Yona Lina, dit-il en montrant sa carte de police. J'aurais voulu parler à votre mari. »
Elle jette un rapide coup d'œil par-dessus son épaule, puis dit
Je veux d'abord savoir de quoi il s'agit. Il se trouve qu'il est très occupé.
C'est au sujet de la nuit du 11 au 12 décembre.
Mais vous êtes déjà venu nous poser des questions,
dit-elle agacée. Yona jette un œil sur le papier qui se trouve dans sa main.
Ici, il est écrit que la police vous a parlé à vous, mais pas à votre mari.
La femme soupire avec irritation.
Je ne sais pas s'il a le temps, dit-elle.
Yona sourit.
Ça ne prendra qu'une minute, c'est promis.
Elle hausse les épaules et crie vers l'intérieur de l'appartement.
Tobias, c'est la police!
Un instant plus tard, un homme arrive avec une serviette de bain autour des hanches. Sa peau semble brûlante, il est très bronzé.
Bonjour, dit-il à Yona. J'étais sur le banc solaire.
C'est bien ça, dit Yona.
Non, répond Tobias Franzen. Il me manque une enzyme du foie. Je suis condamné à passer 2 heures par jour sur un banc solaire. Dans ce cas, bien sûr, c'est une autre histoire. Vous vouliez me poser une question ?
J'aimerais savoir si vous avez vu ou entendu quelque chose d'inhabituel la nuit du vendredi 11 décembre.
Tobias se gratte la poitrine. Ses doigts laissent des traces blanches sur sa peau brune.
Voyons voir, vendredi dernier. Je suis navré, mais je ne peux pas dire que je me souvienne de quoi que ce soit en particulier. Rien ne me vient à l'esprit.
D'accord, merci beaucoup,
dit Yona en inclinant la tête. Tobias tend la main vers la poignée de la porte pour la fermer.
Encore une chose.
Yona hoche la tête en direction de l'appartement vide.
Cette famille-là, les Rosenlund,
commence-t-il. Ils sont très sympas, sourit Tobias en grelottant.
Ça fait un moment que je ne les ai pas vus. Non, ils sont en voyage. Est-ce que vous savez s'ils ont une femme de ménage ou quelque chose comme ça?
Tobias secoue la tête. Il est devenu pâle sous son bronzage et a froid maintenant.
Désolé, je n'en ai aucune idée.
Merci,
dit Yona en voyant Tobias Franzen fermer la porte. Il passe au nom suivant sur la liste. Jarl Amar, à l'étage du dessous. Un retraité qui n'était pas chez lui quand la police est passée. Jarl Amar est un homme maigre, qui souffre visiblement de la maladie de Parkinson. Il est très soigné et porte un chandail et un petit foulard noué autour du cou.
La police ?
Répète Amar d'une voix enrouée presque effacée, tout en dévisageant Yona de ses yeux troublés par la cataracte.
Que peut bien me vouloir la police ?
J'aimerais simplement vous poser une question, dit Yona. Est-ce que par hasard vous auriez vu quelque chose d'inhabituel dans l'immeuble ou dans la rue la nuit du 11 décembre ?
Jarl Amar incline la tête sur le côté et ferme les yeux. Après un court moment, il les rouvre et secoue la tête.
« Je prends un médicament, » dit-il. « Il me fait dormir très profondément. »
Yona aperçoit une femme derrière Jarl Amar.
« Et votre femme ? » demande-t-il. « Est-ce que je peux lui parler ?»
Jarl Amar lui adresse un sourire ironique.
« Ma femme Solveig était une femme formidable, mais elle n'est malheureusement plus parmi nous. Elle est morte depuis presque 30 ans. »
L'homme fluet se retourne et soulève une main tremblante en direction d'une silhouette obscure plus loin dans l'appartement.
« C'est Annabella. Elle m'aide pour le ménage et ce genre de choses. Malheureusement, elle ne parle pas le suédois, mais à part ça, elle est irréprochable. »
L'ombre fantomatique s'avance dans la lumière à la mention de son nom. Annabella semble originaire du Pérou. La vingtaine, très petite, elle a sur les joues de grandes cicatrices dues à la petite vérole. Ses cheveux sont négligemment rassemblés en queue de cheval.
« Annabella ?» dit Yona d'une voix douce. « Soy commissario de policía Yona Lina. »«
Buenos días, »
répond-elle en zézayant et en le regardant avec ses yeux sombres.
« ¿Tú limpias más apartamentos aquí, en este edificio ?»
Elle hoche la tête, confirme. Elle fait bien le ménage dans d'autres appartements de l'immeuble.
Que otros? Demande Yona. Quels autres?
Espera un momento,
dit Annabella qui réfléchit un moment avant de commencer à compter sur ses doigts.
El piso de Lagerberg, Franzen, Gerdmann, Rosenlund, el piso de Johansson también?
Rosenlund, dit Yona.
Rosenlund es la familia con un gato, ¿no es verdad?
Annabella sourit et hoche la tête. Elle fait le ménage dans l'appartement avec le chat.
Y muchas flores, ajoute-t-elle.
Beaucoup de fleurs, dit Yona qui la voit hocher la tête.
Yona lui demande d'un ton grave si elle a remarqué quelque chose de particulier 4 nuits plus tôt quand Benjamin a disparu.
¿Notabas alguna cosa especial hace 4 días de noche?
Le visage d'Annabella se fige.
No,
s'empresse-t-elle de dire en tentant de reculer dans l'appartement de Jarl Amar.
De verdad, dit Yona rapidement. Espero que digas la verdad, Annabella. J'espère que tu me dis la vérité.
Il répète que c'est très important, qu'il s'agit d'un enfant disparu. Jarl Amar, qui était resté là à écouter depuis le début, lève des mains tremblantes et dit de sa voix chevrotante et enrouée
« Il faut être gentil avec Annabella, c'est une très brave fille. Elle doit me raconter ce qu'elle a vu, » dit Yona d'un ton déterminé.
Il se tourne de nouveau vers Annabella.
« La verdad, por favor. »
De grosses larmes tombent des yeux noirs et brillants d'Annabella.
« Perdone, »
chuchote-t-elle.
« Perdone, señor. »
« Allons, Annabella, » dit Jarl Amar en faisant un signe de la main à Yona. « Venez, entrez, je ne peux pas la laisser pleurer comme ça dans l'escalier. »
Ils entrent et s'installent tous trois à la table impeccable de la salle à manger. Jarl Amar sort une boîte de biscuits au gingembre pendant qu'Annabella raconte à mi-voix qu'elle n'a pas d'endroit où vivre, qu'elle est sans domicile depuis 3 mois, mais réussit à se cacher dans les cages d'escalier et les caves appartenant aux personnes chez qui elle fait le ménage. Quand on lui a donné les clés de l'appartement des Rosenlund pour prendre soin des fleurs et du chat, elle a enfin pu s'occuper de son hygiène personnelle et dormir en sécurité. Elle répète encore et encore qu'elle n'a rien subtilisé, qu'elle n'est pas une voleuse, qu'elle n'a pas pris de nourriture, qu'elle n'a rien touché et qu'elle ne couche pas dans le lit des Rosenlund, mais sur le tapis de la cuisine. Puis, Annabella regarde Yona, l'air grave, et dit qu'elle a le sommeil léger, et ce depuis son enfance, parce qu'elle devait veiller sur ses petits frères et sœurs. La nuit du vendredi au samedi, elle a entendu un bruit dans la cage d'escalier et a pris peur, a rassemblé ses affaires, s'est faufilé jusqu'à la porte d'entrée et a regardé par le judas.
La porte de l'ascenseur était ouverte, dit-elle, mais elle ne voyait rien.
Soudain, elle a entendu des bruits, des soupirs et des pas lents, comme si quelqu'un de vieux et lourd avançait.
Mais pas de voix.
Elle secoue la tête.
Sombras.
Annabella tente d'expliquer qu'elle a vu des ombres bouger sur le sol. Yona hoche la tête et demande
« Qu'est-ce que tu as vu dans les miroirs ?»« Que viste en el espejo ?»«
Dans les miroirs ?»«
Tu pouvais voir dans le miroir, Annabella, » dit Yona.
Annabella réfléchit, puis dit avec lenteur qu'elle a vu une main jaune.
« Et ensuite, » ajoute-t-elle un instant plus tard, « j'ai vu un visage de femme. »
C'était une femme?
Si, una mujer.
Oui, c'était une femme.
Annabella explique que la femme avait un bonnet qui jetait une ombre sur son visage, mais que pendant un court instant, elle a vu sa joue et sa bouche.
Sin duda era una mujer, répète Annabella.
Il n'y avait aucun doute, c'était une femme. Quel âge?
Elle secoue la tête. Elle ne sait pas.
Aussi jeune que toi?
Talvez.
Peut-être.
Un peu plus âgée? Demande Yona.
Elle hoche la tête, mais dit ensuite qu'elle ne sait pas. Elle n'a vu la femme qu'une seconde et la plus grande partie de son visage était cachée.
Y la boca de la señora?
Dit Yona en joignant le geste à la parole. Comment était la bouche de la femme?
Contente.
Elle avait l'air contente?
Si, contenta.
Yona ne réussit pas à obtenir un signalement. Il demande des détails, tourne ses questions différemment, fait des suggestions, mais lui a dit tout ce qu'elle savait. Il remercie Annabella et Jarl Amar de leur aide. En remontant l'escalier, Yona appelle Anya. Elle répond aussitôt.
Anya Larsson, Rikskrim?
Anya, est-ce que tu as trouvé quelque chose sur Eva Blow?
Je suis en train de chercher, mais tu n'arrêtes pas de me déranger.
Désolé, mais c'est urgent.
Je sais, mais je n'ai rien de plus pour l'instant.
D'accord, appelle-moi dès que...
Ça va,
dit-elle. Puis elle raccroche.